Bienvenue pour Un Tour d'Histoire, l'émission du département d'histoire de l'Université de Tours, qui sera consacrée aujourd'hui à la monnaie dans l'Antiquité, une source pour l'histoire et pour l'historien. Cette émission sera animée par moi-même, Pierre-Olivier Auchard, maître de conférence en histoire grecque à l'Université de Tours, et par Catherine Grandjean, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Tours également. Et nous sommes tous les deux spécialistes de la monnaie, historien et numismate. Et nous allons échanger, enfin discuter avec vous et discuter pour vous de ce qu'est la monnaie dans l'Antiquité, en commençant par céder la parole à Madame Grandjean.
Bonjour. Donc la monnaie, elle apparaît dans le monde grec, en Asie mineure, à l'ouest de la Turquie actuelle, mais bien avant, il y a des monnaies, à la fois dans cette région et puis dans l'ensemble du bassin méditerranéen et même au plus large. Parce que la monnaie, c'est un phénomène universel, même si toutes les monnaies n'ont pas emprunté le format que l'on connaît, le format de pièces circulaires, de billets de banque ou de monnaie du type des cartes de crédit. Il y a eu, dès la préhistoire, dès lors qu'il y avait des échanges entre les hommes, dès lors qu'il y avait une sédentarisation, un commerce, des échanges, des outils monétaires qui souvent avaient d'autres fonctions que des fonctions purement monétaires. Par exemple, dans beaucoup de civilisations, on a utilisé des coquillages, des petits coquillages qu'on appelle des coris, pour les échanges. On a utilisé aussi des tissus, on a utilisé énormément de biens qui avaient d'autres fonctions que des fonctions proprement monétaires. Mais on peut parler, pour ce type d'objet, de monnaie. Alors, dans le monde grec, pendant très longtemps, on a utilisé des lingots métalliques, surtout des lingots en bronze. On en a retrouvé un certain nombre dans des fouilles archéologiques, comme dans l'ensemble de la Méditerranée orientale. Et puis, on a utilisé également, quand on lit les poèmes homériques, quand on lit l'Iliade notamment, on voit que les esclaves sont une monnaie d'échange entre les aristocrates, de même que les têtes de bétail, un taureau, un bœuf, a une valeur monétaire. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans le monde italien. Le mot « pecus » en latin, « troupeau », a donné le mot « pecunia », la monnaie. Et puis, à partir en fait du premier millénaire, on voit la monnaie se polariser sur les métaux précieux, en dehors donc de ces têtes de bétail, de ces esclaves. Et on voit des lingots d'argent prédominer dans les échanges qui sont faits en Méditerranée orientale. Et ça préfigure en fait l'utilisation du métal et des métaux précieux dans l'apparition de la monnaie, au sens occidental du terme, c'est-à-dire de la monnaie frappée en métal précieux, cet objet circulaire dont on a encore l'héritage dans nos propres monnaies. Mais c'est un événement tardif dans l'histoire des échanges, bien après la sédentarisation des populations en Méditerranée orientale, dans le croissant fertile ou en Grèce.
Et du coup, c'est vrai que par rapport à ce phénomène tardif, comme vient de le dire Catherine Grandjean, il y a la question de l'usage de la monnaie, de ce qu'est l'objet monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque nous, c'est vrai que quand on parle de monnaie, on a l'idée du billet de banque, donc, qui n'a pas vraiment lieu d'être dans l'Antiquité, mais de la pièce circulaire, de la pièce métallique, qui est loin d'être une évidence déjà pour l'époque. Et cette invention finalement d'une rondelle de métal sur lequel on imprime une marque pour pouvoir garantir son identification et sa valeur, finalement elle n'apparaît que vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, dans un royaume qu'en fait tout le monde connaît sans vraiment en avoir conscience, puisque c'est le royaume de Lydie, qui est connu de manière assez proverbiale pour son dernier roi, Crésus, hein, d'où l'expression « riche comme Crésus », puisque ce souverain était censé, pas que censé d'ailleurs, ça a quand même un certain fondement historique, mais tirer sa fortune d'un fleuve, ou d'une rivière plutôt, qui coulait à travers sa capitale Sardes, une rivière qui charriait toute une masse de paillettes, de métaux précieux, d'or et d'argent, et cette rivière se nommait le Pactole. Donc on voit bien que comme la façon dont cette richesse est devenue proverbiale et a traversé les âges pour faire les belles heures des pages roses des dictionnaires Larousse ou Robert pour séparer les noms propres des noms communs. Et cette invention de la monnaie qu'on appelle frappée, c'est-à-dire celle que l'on connaît encore aujourd'hui, la rondelle métallique qui a une valeur monétaire avec une marque dessus pour pouvoir l'identifier, remonter à ce royaume de Lydie qui se situait dans l'ouest de la Turquie actuelle, entre le littoral de la mer Égée et le plateau anatolien, et serait apparu donc au milieu du 6e siècle. Alors le problème, c'est que pour avoir une datation un petit peu précise de l'apparition de la monnaie, les historiens et les numismates sont très embêtés, puisque l'un des plus vieux dépôts de fondation monétaire qu'on a retrouvé était dans l'Artémision d'Éphèse, un temple à Artémis, donc dans la cité d'Éphèse sur la côte d'Asie Mineure, temple qui faisait partie des sept merveilles du monde antique. Le problème, c'est qu'au moment des fouilles de ce temple, quand a été découvert ce dépôt monétaire, l'archéologie n'avait pas le degré scientifique qu'elle avait aujourd'hui, et la recherche archéologique était intéressée par le bel objet, l'objet dans un but de collection et de musée. Il n'y avait pas nécessairement les relevés stratigraphiques qu'on peut avoir aujourd'hui, la rigueur du relevé, du repérage et de la contextualisation. Donc le contexte de découverte a été en fait presque impossible à établir aujourd'hui, donc on est obligé de faire des hypothèses sur lesquelles on ne va pas s'étendre aujourd'hui, surtout que même s'il y a un certain consensus, on pourrait mettre deux numismates dans la même pièce, il y a des chances qu'ils ne seraient pas nécessairement d'accord sur une chronologie fine, mais en tout cas il y a un certain consensus qui se dégage sur une apparition au milieu du 6e siècle avec des monnaies qui seront en électrum. Alors là aussi, électrum, on va essayer de rester soft et de ne pas forcément rentrer dans les détails de est-ce que cet alliage était artificiel ou naturel, là aussi, grand débat. Mais ce qu'on appelle l'électrum, en fait, c'est un alliage qui peut exister à l'état naturel et que l'on peut également constituer à l'état artificiel, c'est un alliage d'or et d'argent. Donc en fait, les premières monnaies sont faites à partir de cet alliage, ce qui fait que ce sont des monnaies qui finalement ne sont pas spécialement rondes. Il ne faut pas avoir l'image de nos belles pièces bien rondes, bien calibrées comme on peut les avoir aujourd'hui. C'est plutôt des globules, elles sont assez épaisses, elles ont une forme plus oblongue, comme un ballon de rugby dont on aurait rogné les coins en quelque sorte, elles sont dans un métal qui peut être relativement pâle, puisque comme on a un mélange d'or et d'argent, c'est pas de l'argent pur, mais c'est pas brillant comme de l'or, c'est un espèce d'or blanc en fait, c'est d'ailleurs comme ça que les Grecs l'appelaient, hein. ils parlaient d'or blanc. Et c'était des monnaies qui étaient frappées avec un système un petit peu au départ... on va dire archaïque au sens ancien et artisanal, c'est que les premières frappes, elles étaient faites avec ce qu'on appelle des coins. Donc les coins, c'est comme des sortes de tampons qui permettent d'imprimer une marque sur la monnaie. Et au départ, tout simplement, on voulait mettre une marque sur ces flancs, sur ces globules métalliques, pour tout simplement garantir que ce globule avait une valeur légale, qu'il avait une telle valeur et qu'on pouvait l'utiliser sans crainte. Donc il suffisait en quelque sorte de mettre simplement un poinçon qui pouvait être un carré, un cercle, ce qu'on appelle un carré creux vu que ça imprimait dans la monnaie, pour simplement garantir la valeur. Donc en fait, les premières monnaies frappées avec ces coins sont avec un carré d'un côté de la monnaie. Et de l'autre côté, elles étaient souvent striées parce que ça permettait justement, d'un point de vue technique, d'éviter qu'au moment de la frappe, le flanc bouge, dérape et glisse sur l'établi en fait du frappeur. Donc on a quelque part au début quelque chose d'assez simple dans dans l'iconographie, dans la production, mais c'est quand même une grande innovation parce que c'est censé, si on en croit Aristote, qui a essayé au IVe siècle de théoriser un petit peu l'usage de la monnaie et son utilité, ça permet d'avoir de simplifier les échanges, si on en croit Aristote, de faire des marques, de faire des réserves de valeur, et aussi surtout de garantir et de simplifier la transaction, parce qu'on n'était plus obligé de vérifier le poids de la monnaie pour s'assurer qu'elle avait bien la valeur qu'on lui attribuait. Ça permettait aussi de garantir l'alliage, puisque la personne qui frappait, l'autorité qui frappait, disait faites-moi confiance. Donc déjà dès l'époque, il fallait faire confiance à l'État. Faites-moi confiance. L'alliage, le métal qui est utilisé est un métal de bonne qualité, je le garantis. Et donc c'est une innovation. Ce n'est pas une révolution, hein. Comme l'a dit Catherine tout à l'heure. On n'a pas attendu la monnaie pour échanger avec. On n'a pas attendu la monnaie frappée pour faire des échanges avec des symboles métalliques. Des États conserveront des échanges non monétaires bien après, mais le but, c'est quand même de simplifier les choses dans les transactions. Alors, toute la question après, c'est évidemment l'usage qu'on peut en faire, parce que c'était des monnaies dans un alliage, mais peut-être que Catherine en parlera mieux que moi, c'était des monnaies dans un alliage de métaux précieux, donc la valeur des premières monnaies était assez colossale, donc se pose un peu là aussi la question de son utilité au quotidien, parce que c'était quand même des gros modules, des pièces assez lourdes et finalement de très forte valeur, comme si on avait aujourd'hui que des billets de 500 euros dans notre poche pour pouvoir faciliter les échanges au quotidien, ce qui est peut-être pas très simple finalement.
Alors, en dehors de cette question qui est très importante, hein, sur la fonction de ces monnaies, les causes également de l'adoption de cette innovation technique, il y a une chose qui est très frappante concernant ces premières monnaies, comme l'a dit Pierre-Olivier, c'est leur caractère globulaire, pas du tout circulaire, hein, et puis également l'iconographie. Après cette première phase où on a ces stries sur les monnaies, on voit apparaître un certain nombre de représentations, dont beaucoup sont des représentations animalières, par exemple un combat entre un lion et un taureau, ou un cheval, ou différents types monétaires, souvent donc des animaux. Et en fait, beaucoup empruntent cette typologie à l'iconographie orientale. On retrouve par exemple à Persépolis ou dans d'autres grands sites orientaux ce type d'iconographie animalière. Et cela, comme la technique en fait de fabrication, tout ça rappelle finalement la technique et les objets qu'on appelle des sceaux. Alors c'était des sceaux en argile, ça pouvait être également des sceaux en pierre semi-précieuse, mais qu'on utilisait dans les chancelleries orientales antiques pour sceller des correspondances, des actes notariés. Et donc, c'est un caractère complètement oriental, cette innovation. Alors, en plus, c'est adopté très rapidement à la fois par un roi qui est un roi très hellénisé, hein, le souverain lydien, mais qui n'est pas grec, et c'est adopté également par ces grandes cités grecques portuaires, hein, qui étaient intégrés à ce royaume de Lydie, comme Éphèse, comme Milet, ou comme des îles comme Samos, avec des monnaies qui ont exactement la même valeur, souvent une typologie proche, et qui sont frappées dans le même métal. Alors comment expliquer l'apparition de ces monnaies ? Bon, ça peut être une innovation technique, mais comment passe-t-on de l'innovation à l'invention ? Est-on arrivé à la généralisation de cette fabrication qui a un caractère très, très oriental ? Pourquoi la monnaie frappée ? Alors pour ça, on a très peu en fait d'indications dans les textes grecs. Les Grecs ne se sont pas beaucoup intéressés à la monnaie, il faut attendre Thucydide à la fin du 5e siècle. On a juste un texte d'Hérodote, donc historien du 5e siècle, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui dit « Les Lydiens ont inventé le commerce de détail, la monnaie et la prostitution ». Bon, alors ça ouvre évidemment des horizons quant aux usages de la monnaie, mais comme le disait Pierre-Olivier, les monnaies étaient des monnaies de forte valeur, celles en tout cas qu'on a retrouvées, et donc comment associer ces monnaies de forte valeur au commerce de détail? Ça, c'est une question qui reste ouverte, c'est une aporie, on ne sait pas. Alors nous écoutions un morceau, une reconstitution en fait de morceaux de musique de la Grèce antique par l'Atrium Musicae de Madrid. C'est un des ensembles qui a essayé, à partir de papyrus surtout retrouvés en Égypte, de reconstituer des morceaux de musique grecque. On en écoutera un second tout à l'heure. Alors là, c'est une musique qui accompagnait en fait l'Orestie d'Eschyle.
Donc pour reprendre après cette interlude musicale sur cette question de la monnaie, donc effectivement, comme le disait Catherine, on était face à une invention, on va dire, très typée orientale au sens est de la Méditerranée, vraiment cette période, cet endroit de l'Asie mineure et de toute la partie est de la Méditerranée. Et en fait, très rapidement, cette innovation s'est diffusée, enfin très rapidement, à l'échelle historique, elle a été adoptée, elle a rencontré un certain succès, non sans certaines évolutions, parce qu'on peut constater déjà de phénomène, c'est que les premières monnaies étaient dans cet alliage qu'on appelle d'électrum, d'or et d'argent, mais qui pouvait en soi poser un petit problème, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément toujours très sûr de la quantité d'or, de la quantité d'argent qu'il pouvait y avoir dedans, et donc pour garantir sa valeur, ça pouvait parfois poser problème vis-à-vis de l'utilisateur. Et donc très rapidement, ces royaumes, ces cités qui se trouvaient dans la partie orientale de la Méditerranée ont essayé de régler le problème en adoptant progressivement un métal de plus en plus pur au sens non allié, pour pouvoir facilement garantir son usage. Et en Orient, il y a quand même un certain intérêt pour l'or, et du coup, le royaume de Lydie, dont on parlait tout à l'heure, qui est à l'origine de cette innovation, a assez rapidement quand même malgré tout, sur la fin du royaume, donc dans les années très probablement 460-450, même si les dates peuvent encore être discutées, ont abandonné l'électrum pour arriver sur des monnaies de métal précieux. Par exemple, Crésus, à la fin de son règne, les Créséides, en 500, j'ai dit 400 tout à l'heure, c'était une erreur, c'était 546, c'était une petite erreur de ma part, en 546... C'est la fin de ce royaume de Lydie. Dans le royaume de Lydie, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les Créséides, du nom de ce souverain, donc de ce dernier souverain de Lydie, qui frappaient des monnaies en or. En or, là, il n'y avait plus d'alliage, il n'y avait plus ce mélange d'or et d'argent, on était vraiment sur des monnaies en or, exclusivement en or. Mais ce passage à l'or en Orient reste finalement, pour la région, assez limité, puisque la monnaie ne se diffuse pas majoritairement vers l'Est. C'est une invention orientale, mais les orientaux, au sens géographique du terme, donc à l'Est de la Méditerranée, n'ont pas nécessairement eu beaucoup d'attrait et beaucoup d'empathie pour cette innovation, ce qui n'a pas été le cas des Grecs. Les Grecs ont été beaucoup plus friands de cette nouvelle technique, puisque les premières monnaies d'argent en Grèce apparaissent très peu de temps après les monnaies en Lydie, puisqu'on est dans les années 550-500 dans les cités grecques. Là aussi, on retrouve certains éléments qu'on mentionnait Catherine tout à l'heure. Ce sont des cités qui sont tournées vers le commerce, des cités qui sont ouvertes sur l'espace maritime, comme Athènes, comme Corinthe et surtout comme Égine. Et qui, elle, par contre, s'oriente vers des monnaies qui seraient plus en argent, avec là aussi des adoptions d'une iconographie qui peut être amenée à les représenter là où les souverains de Lydie et les souverains orientaux adoptaient des lions, des taureaux qui renvoyaient à une certaine iconographie royale de la région. Les cités grecques, par exemple, Égine va adopter la tortue, qui va un petit peu devenir, si vous me permettez l'expression, son animal totem, qui va permettre de reconnaître cette cité sur son monnayage, au même titre que Corinthe va adopter le Pégase, ce fameux cheval ailé qui est très présent dans la mythologie de cette cité. Mais on va avoir donc une diffusion à partir de la fin du 6e siècle dans le monde grec de la monnaie dans ces cités commerçantes, avec bien sûr la cité du monde grec qui va frapper, si j'ai envie de dire, par excellence, Athènes, qui va être un des plus gros ateliers monétaires et qui va adopter très rapidement des images qui vont pouvoir, une iconographie qui va l'identifier dans l'ensemble du monde grec de manière assez ferme, surtout qu'Athènes, même s'il y aura des petites variantes, va très peu faire bouger son iconographie. Vous pouvez être sûr que dès que vous avez une monnaie avec une tête d'Athéna casquée, qui regarde la tête tournée vers la droite avec les cheveux tombant dans la nuque, et de l'autre côté de la pièce, donc sur le revers, une chouette, l'animal de la sagesse, l'animal d'Athéna, avec une branche d'olivier, vous êtes assuré d'avoir une monnaie athénienne en main, et c'est une monnaie qui va avoir énormément de succès, et que les Athéniens vont frapper tout au long de leur histoire, et surtout avec la régularité de type qui est assez frappante. Pour de la monnaie, c'est plutôt intéressant que ce soit frappant. Et cette innovation va continuer à se diffuser en fait vers l'ouest de la Méditerranée, dans le reste de l'ensemble du monde grec, pour atteindre une région qu'on parfois on pourrait avoir tendance à oublier dans le monde grec, c'est-à-dire le domaine occidental, la Sicile, une partie de l'Italie du Sud où les Grecs se sont installés après le phénomène de colonisation à l'époque archaïque. Et là, on a, si je puis me permettre, le pendant d'Athènes pour le monde occidental, qui est la cité de Syracuse en Sicile, qui est vraiment la cité grecque du monde occidental et qui elle aussi va avoir une production monétaire absolument considérable, là aussi avec des types très identifiables et très particuliers, entre autres une tête d'Arétuse qui est une divinité féminine, qui est la divinité tutélaire de Syracuse, qu'on reconnaît très souvent parce qu'elle a sur leur représentation au droit, elle a souvent autour d'elle souvent quatre dauphins qui forment un cercle autour de la tête. Et puis sur le revers, il peut y avoir là un petit peu plus de variété que ce qu'on peut trouver à Athènes, mais les grands classiques de Syracuse, ce sont les monnaies d'argent, les tétradrachmes, des monnaies qui font quasiment 17 grammes, où on a un char tiré par quatre chevaux avec une victoire, cette femme ailée, une Nike, qui aura une grande pérennité dans les marques de chaussures de sport d'ailleurs, cette Nike qui couronne les chevaux. Donc on a cette diffusion de la monnaie dans le monde grec, qui les Grecs ne l'ont finalement pas inventé, mais ils y ont trouvé un intérêt bien plus que les Orientaux. Ils l'ont adopté beaucoup plus massivement que les peuples de l'Est de la Méditerranée pour en faire un usage beaucoup plus intensif et beaucoup plus massif.
Alors, ce qui distingue, comme l'a dit Pierre-Olivier, le monnayage grec, c'est la prédominance, en tout cas au début, à partir de la deuxième moitié du VIe siècle, du métal argent. En revanche, la monnaie d'or dans le monde grec, elle est relativement rare, en fait, jusqu'à l'époque d'Alexandre le Grand et aussi de son père Philippe II, c'est-à-dire jusqu'au milieu du IVe siècle avant notre ère. Parce que les ressources en or du monde grec sont relativement faibles par rapport aux ressources en argent, et l'or est surtout dévolu à la bijouterie, aux offrandes, aux divinités. Et quand une cité frappe monnaie d'or, c'est souvent un signe de grande détresse. Par exemple, on a un certain nombre de monnaies d'or frappées par Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse, vers 406-405 avant notre ère, au moment où ils sont quasiment vaincus déjà par les Spartiates et où les mines d'argent du Laurion, dont Athènes tirait une grande partie de ses richesses, sont occupées. Et donc, on le sait par les textes, les Athéniens fondent des statues de Nike, de victoire, qui sont sur l'Acropole, et battent monnaie avec, parce qu'il faut payer la flotte, il faut payer l'approvisionnement de la cité. L'âge de l'or en Grèce, c'est l'époque hellénistique, donc surtout après la mort d'Alexandre le Grand. Et les mines d'argent, elles, sont beaucoup plus nombreuses dans le monde grec. Alors j'ai parlé du Laurion, donc qui est au sud d'Athènes, au sud de l'Attique, mais il y a des mines d'argent dans bien d'autres endroits, notamment dans le nord de la Grèce, en Macédoine. Et on voit les monnaies macédoniennes, à partir donc du milieu du IVe siècle, prendre un peu la suite des monnaies d'Athènes et aussi de Syracuse dans l'ouest du monde grec, comme devise internationale, jouer un peu le rôle du dollar, un peu partout en Méditerranée orientale, jusqu'au Sri Lanka, jusqu'à l'Inde, au sein vraiment également de l'Orient. Avec d'autres monnaies donc de forte valeur, Pierre-Olivier parlait de monnaies de 17 grammes, de tétradrachmes, c'est-à-dire de monnaies de la valeur de 4 drachmes, c'est de la grosse monnaie, hein. C'est un billet de 100 euros, voire peut-être de 200 euros. Et ces monnaies frappées à partir du règne d'Alexandre le Grand représentent une tête d'Héraclès, coiffée de la dépouille du lion de Némée. Et ça, c'est d'un côté de la monnaie. Alors en fait, c'est le portrait d'Alexandre le Grand, hein, par Lysippe, qu'on voit dans la statuaire. Et puis au revers, donc de l'autre côté de la monnaie, il y a le nom du roi et un Zeus donc, qui tient un aigle, qui est son animal favori. Donc la monnaie d'argent, c'est vraiment l'essentiel du monnayage grec. Et puis alors, il y a un moment très important dans l'histoire de la monnaie grecque. Pierre-Olivier a parlé de l'apparition de la monnaie frappée. d'abord globulaires, et puis ensuite on arrive à des monnaies qui ont une forme beaucoup plus régulière, beaucoup plus circulaire, en métal précieux, électrum, argent surtout, et un petit peu l'or. Et il y a l'apparition, à partir du 5e siècle, d'un nouveau métal qui, lui, n'est pas un métal précieux, c'est le bronze. Alors le bronze, il est utilisé dans la statuaire, il est utilisé pour faire des vases précieux, des trépieds, enfin il y a toute une série d'usages. En revanche, on ne le monnaie pas parce que ça n'est pas un métal précieux. Le bronze, c'est un alliage donc d'étain et de cuivre auquel on rajoute souvent, parce que l'étain c'est cher, on le fait venir du nord-ouest de l'Europe, c'est très coûteux, on met souvent du plomb. Alors, le plomb qui est beaucoup plus, beaucoup moins coûteux, parce que c'est un déchet finalement de l'extraction de l'argent. Hein. On a les mines d'argent sont souvent des mines de plomb argentifère, donc on a des résidus de plomb. Et donc, on voit que les Grecs mettent longtemps à frapper pour les monnaies de très faible valeur du bronze. Alors que c'est un métal qu'ils ont quand même en abondance, dont ils maîtrisent bien la métallurgie. Et il faut attendre finalement près de plus d'un siècle après les débuts de la monnaie. Ça commence au milieu du 5e siècle et on commence à avoir des monnaies en bronze aux extrémités du monde grec, à la fois en Crimée, en Ukraine actuelle, où il y a des colonies grecques. Alors on se met à fabriquer des petits objets en forme de dauphins, qui sont en fait des monnaies, des petites monnaies, hein, des petites pièces, hein, un peu comme nos pièces jaunes. Et puis également, en Sicile, à l'ouest de la Sicile, en Italie du Sud, on voit apparaître des monnaies alors, qui ont une forme un peu bizarre, hein, de dés à coudre, qui sont également des monnaies de bronze, qui reprennent les mêmes représentations que les monnaies d'argent, mais qui ont une forme différente, sans doute parce que c'est pas facile de passer d'une monnaie qui a une valeur, on dit dans notre jargon, intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a la valeur, déjà le métal qui est utilisé a une valeur, et là on passe à une monnaie qui a très souvent une valeur affichée, une valeur dont un cours fixé par l'État émetteur, très supérieur à la valeur métallique. C'est un peu comme une pièce de 1 euro en cupro-nickel, dont la valeur est affichée par l'Europe, très supérieure à sa valeur métallique. C'est ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que l'usage de la monnaie, elle repose sur l'autorité de l'État émetteur et sur la confiance que donnent en fait les usagers de la monnaie à l'État émetteur. Voilà. Et à la société, à la cohérence sociale pour être sûr que la valeur d'échange de la monnaie soit garantie. Voilà. Donc voilà pour le métal. Maintenant, autre caractère de ces monnaies grecques, c'est que le monde grec est un monde morcelé en micro-états, hein, qui sont très souvent des cités, même s'il y a d'autres formes de pouvoir. Et chacun a son système pondéral et monétaire. Donc c'est extrêmement difficile, quand on fait du commerce international dans le monde grec, d'échanger une monnaie contre une autre. Et ça implique l'intervention en fait, de changeurs, qui se mettent assez rapidement aussi à faire du crédit, et ce sont les ancêtres de nos banquiers. C'est ce qu'on appelle les trapézites. La trapeza, c'est le banc de change, et en fait, ils travaillent sur ces bancs de change, d'où le nom de ces gens qui sont des banquiers changeurs. Voilà. Alors, ces problèmes de change freinent les échanges, parce qu'il y a des zones de circulation régionales, et ça fait qu'il n'y a pas un grand commerce unifié, comme nous, on peut le connaître. C'est difficile de parler d'un marché dans le monde grec. Alors, à partir d'Alexandre, il y a une simplification des étalons, puisque l'étalon d'Athènes est repris par Alexandre, par ses successeurs. C'est ce qu'on appelle l'étalon attique. Et donc, il tend à se généraliser, ce qui permet un petit peu une unification sur le plan monétaire, et donc sur le plan commercial, ça facilite beaucoup les échanges.
Τεταφέ τα δε λέγεις πότατα τον πέντας πάντε θω ως ικ.
Donc, pour revenir sur certains éléments qu'on avait déjà dit, comme le signalait Catherine, effectivement, l'uniformisation qu'on a pu avoir pour les étalons avec Alexandre le Grand ne signifie pas nécessairement une uniformisation de ce qu'on appelle les types et les légendes sur la monnaie. Alors, pour la faire simple, les types, c'est le dessin qu'on aura mis sur la monnaie, et la légende, c'est le texte qui peut ou pas l'accompagner. Et c'est quelque chose qui est presque aussi ancien que la monnaie, puisqu'il fallait, comme j'ai pu le dire précédemment, il fallait pouvoir mettre des marques qui permettaient sur la monnaie d'identifier qui faisait frapper, qui garantissait que cette monnaie était légale, qui garantissait que la valeur était bonne, et donc il fallait quelque chose qui pouvait être identifié assez facilement par les utilisateurs dans une société qui, ne l'oublions pas, n'était pas forcément très lettrée, très alphabétisée. Donc mettre un grand texte qui dit « par décret, voici ce que garantit l'État athénien en temps de... » ça servait strictement à rien. Donc il fallait quand même une identification assez facile. Et la monnaie, alors, a pu servir, même si ça n'a jamais été sa fonction première. On ne s'est pas mis à frapper des monnaies pour diffuser des images. On n'en avait pas besoin de la monnaie pour diffuser des images. Et il y avait tout à fait d'autres supports pour le faire. Mais puisqu'on avait ce support métallique, autant joindre l'utile à l'agréable, les États, les autorités émettrices, les rois, les cités, peu importe leur statut, ont utilisé la monnaie pour mettre un certain nombre d'éléments iconographiques pour pouvoir faire passer, enfin pour pouvoir donner des formes de messages, ou en tout cas permettre une identification. Et de ce point de vue-là, on avait effectivement de la part des cités une certaine recherche. J'ai parlé tout à l'heure du cas d'Athènes qui était extrêmement durable dans ses choix, avec une tête d'Athéna et une chouette au revers. Mais on a une grande diversité d'exemples d'iconographie de cités qui utilisent la monnaie pour véhiculer une image qui les identifie. Alors ça peut être soit le rapport à une divinité, la déesse protectrice, la déesse protectrice ou le dieu protecteur. On a parlé d'Athènes avec la déesse Athéna, on a parlé d'Arétuse avec Syracuse, ou alors leur animal de prédilection, l'animal qui permet l'identification, l'aigle pour Zeus, la chouette pour Athéna. Mais ça pouvait aussi tout à fait faire référence à des épisodes mythologiques, à des épisodes qui étaient considérés par les États et les populations de ces cités comme faisant partie intégrante de leur histoire. Alors il y avait bien sûr le Pégase, dont j'ai déjà parlé pour les monnaies de Corinthe, mais dans les monnaies crétoises de l'île de Crète, cette grande île au sud de la mer Égée qui ferme le passage entre la mer Égée et le bassin principal de la Méditerranée, on a pour les monnaies de Knossos, la principale cité de cette île, on a par exemple des représentations du labyrinthe en lien avec le mythe du Minotaure et la légende du Minotaure. Ou alors on peut avoir aussi une certaine recherche iconographique avec l'idée de faire passer une identification. Il n'est pas surprenant de trouver sur des monnaies grecques des objets ou des animaux parlants qui permettent justement de nommer la cité sans avoir à donner son nom, sans avoir à l'écrire. Par exemple, les monnaies de Rhodes, cité très importante de la mer Égée au sud de... les points cardinaux. Au sud-est de la mer Égée, donc au large de la Turquie actuelle, représentait très régulièrement sur ses monnaies un Hélios. Donc, c'était pas tout à fait Apollon, c'était une divinité solaire radiée en rapport avec le fameux Colosse, là aussi encore une des merveilles du monde antique. Et sur le revers de la monnaie, une rose. Une rose, non pas parce qu'il y avait des fleurs de ce type à Rhodes, mais parce que rose se dit Rhodos. Et donc, voir la rose, on pense au mot, et le mot est le nom de la cité. On trouve un exemple encore plus frappant pour la cité de Phocée. La cité de Phocée, pareil en Asie mineure, qui représentait sur ses monnaies un phoque. Or, les phoques, réchauffement climatique ou pas, en mer Égée, il n'y en a pas. Donc, c'est pas un animal qu'on retrouvait sur les plages de Phocée. Mais en grec, le phoque se dit phocée. Donc, l'animal permettait d'identifier la cité émettrice. Et finalement, l'uniformisation qu'on a eue avec Alexandre le Grand, des étalons ou de l'usage des métaux avec un développement de l'or qui n'avait pas lieu jusqu'avant, n'a pas nécessairement entraîné une uniformisation des types, puisque la succession d'Alexandre le Grand ayant été un petit peu compliquée, c'est un doux euphémisme de le dire, hein, on est quand même pas dans un épisode de Game of Thrones, mais pas loin, les successeurs d'Alexandre ont essayé de légitimer leur prise de pouvoir et d'installer leur pouvoir dans leur nouveau royaume, et ont utilisé la monnaie. C'était pas le but premier, mais là aussi ils ont profiter de ce support, ils ont utilisé la monnaie pour mettre aussi bien des images de leur pouvoir que les titres de leur pouvoir. C'est-à-dire que sur les monnaies, ils essayaient de mettre des portraits. On a des monnaies de portraits de Cléopâtre, la fameuse Cléopâtre VII, dernière reine d'Égypte immortalisée dans l'univers collectif par le bon mot de Pascal et puis par la BD d'Astérix, mais elle était représentée au droit sur des monnaies. On a des portraits des souverains, les Ptolémées, Ptolémée Ier, Ptolémée II en Égypte, le portrait des Séleucides, Séleucos Ier, Antiochos Ier, donc sur le royaume qui domine le Proche et le Moyen-Orient. On a une volonté des souverains d'afficher leur visage, et là où il y a une innovation par rapport, par exemple, à Alexandre ou Philippe II de Macédoine, c'est que les portraits de ces souverains hellénistiques sont très souvent réalistes. Le but, c'est pas qu'on reconnaisse le roi, on va pas faire le parallèle avec l'épisode de Varennes où, paraît-il, on a reconnu Louis XVI parce qu'il y avait sa tête sur un louis d'or, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de pouvoir mettre le portrait du souverain, mais le souverain tel qu'il est, puisque quand on a un portrait, par exemple, de Ptolémée Ier, alors les auditeurs pourront facilement trouver cela, je suppose, sur Internet en faisant une recherche rapide, mais Ptolémée Ier, quand on le voit avec ses yeux globuleux, son nez anguleux et son menton en galoche, si ça c'est un portrait idéalisé, je ne veux pas imaginer quelle était sa vraie tête au départ. C'est qu'on a vraiment un portrait crédible, un portrait réaliste. L'idée, c'est vraiment de pouvoir afficher le pouvoir. Et on a de nouveau les mêmes intentions sur le revers des monnaies, puisque le roi doit être bon, le roi doit être juste, le roi doit être pieux. Et ben on met une corne d'abondance, puisque comme ça, il apportera croissance, richesse et prospérité au royaume. On met un aigle, comme ça, il apportera puissance et justice. Chez les Antigonides, ceux qui ont régné sur la Macédoine après Alexandre le Grand, qui étaient des rois qui ont construit leur pouvoir sur une puissance navale, et ben on va mettre un Poséidon, dieu de la mer, on va mettre une proue de bateau. Enfin, il y a toujours l'idée de véhiculer un message, de véhiculer une idée avec le type qu'on choisit. Mais en plus du type, on met également des légendes. Des légendes qui peuvent avoir alors deux caractéristiques. Soit c'est ce qu'on appelle l'ethnique. L'ethnique, c'est-à-dire reconnaître quel est l'ethnos, le peuple qui a fait frapper cette monnaie, puisque faut pas oublier que dans l'Antiquité, si je voulais caricaturer, Sparte, Athènes, Syracuse, ça n'existe pas. Ce sont les Athéniens, les Spartiates, les Syracusains. L'État ne se définit pas par son territoire, il se définit par la population qui s'y trouve. Donc en fait, ceux qui font frapper monnaie, c'est pas Athènes, c'est pas Sparte, sachant que Sparte, c'est pas un bon exemple, vu qu'elle frappe monnaie très tard, mais ce sont les Athéniens. Donc c'est pour ça qu'on utilise le nom d'ethnique, pour faire savoir quelle population à travers son autorité politique a fait frapper monnaie. Donc on a ce qu'on appelle cette ethnique, pour les citer, qu'on retrouve après avec Alexandre le Grand et les souverains. Alors c'est plus un ethnique, mais là on a le nom du souverain, soit du roi Alexandre, du roi Ptolémée, du roi Démétrios, pour vraiment identifier l'autorité émettrice. Mais ce ne sont pas les seuls textes qu'on trouve sur les monnaies, puisqu'en plus de cette ethnique pour identifier l'autorité émettrice, on a aussi tout ce qui concerne les marques et les éléments qui permettent d'identifier, alors avec plus ou moins de difficultés, ça c'est un petit peu notre travail et parfois Dieu sait que c'est pas évident, mais d'identifier les endroits où ont été fabriquées ces monnaies. C'est-à-dire que dans le cadre d'Athènes, par exemple, c'est pas très compliqué, il y avait un atelier à Athènes, mais dans le cadre d'un royaume hellénistique comme celui d'Alexandre le Grand, il y avait une multitude d'ateliers. Il y en avait à Pella, il y en a donc en Macédoine, il y en avait à Sardes par exemple en Asie Mineure, il y en avait à Babylone en Mésopotamie, et donc il y avait ce qu'on appelle des marques d'atelier, des marques de contrôle, des symboles. Ça pouvait être un soleil, une rose, une torche, ou ça pouvait être des monogrammes, c'est-à-dire des lettres enchevêtrées qui prenaient un petit aspect pas forcément identifiable au premier coup d'œil, mais qui permettaient de savoir où la monnaie avait été frappée, dans quel atelier, d'où elle venait au moment de la frappe. Et dans certains cas, à Éphèse et à Rhodes, c'est là où on a les plus beaux exemples, mais ce ne sont pas les seuls, on a parfois des noms au revers des monnaies, des noms de personnes. Alors, grand débat qu'on ne tranchera pas ici, hein, parce que premièrement, on n'a pas le temps, et deuxièmement, on ne voudrait pas s'attirer les foudres de certains auditeurs, mais de savoir si c'était des magistrats, c'est-à-dire des personnes qui avaient été est chargé par la cité de superviser la frappe, ou ce qu'on appelle des évergettes, c'est-à-dire des individus qui avaient financé de leur plein gré pour montrer leur puissance, leur magnificence et leur détachement des choses matérielles pour aider leur cité, de financer la frappe de monnaie en lieu et place de l'autorité. Et donc pour les remercier, ils auraient pu mettre leur nom sur leur monnaie. Mais donc, même d'un point de vue, on va dire, textuel, la monnaie est un objet qui est très riche en informations et qui va bien au-delà des images.
Bien, alors disons quelques mots maintenant de manière un peu générale hein, sur la monnaie grecque et son usage. Bon, la monnaie dans le monde grec, c'est un outil de paiement, d'évaluation des transactions, de réserve de valeur, c'est les trois fonctions hein, économiques de la monnaie définies par Aristote et reprises ensuite par les économistes, les théoriciens de la monnaie moderne. C'est un outil qui est loin d'être universel. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais assez de monnaie frappée, disponible pour solder les transactions. Donc on ne peut pas dire que le monde grec, à partir de l'invention de la monnaie frappée, est abandonné toutes les autres formes en fait, d'outils monétaires, les esclaves, les bœufs, etc., les lingots, au moment, en fait, dès l'apparition de la monnaie. Même à la fin de l'Antiquité, on utilise d'autres outils pour solder les transactions parce qu'il n'y a jamais suffisamment de monnaie. Alors pourquoi n'y a-t-il jamais suffisamment de monnaie ? Eh bien parce que, d'abord, il y a des limitations dans les stocks de métaux disponibles, tant en or, tant en argent, que pour la fabrication même du bronze, qui vaut beaucoup moins cher. Et puis parce que, dans le monde grec, comme dans le monde antique en général, le monopole de frappe appartient à l'État. C'est-à-dire qu'il appartient aux autorités civiques, il appartient au roi ou à d'autres émetteurs qui peuvent être des États fédéraux, des ligues, des États d'autres natures. Parfois même, on a le cas de sanctuaires. Et en fait, la frappe est effectuée quand il y a des besoins de dépenses, des besoins de frappe monétaire pour solder des dépenses, notamment militaires, dans un état donné. Il n'existe pas ce qu'on a connu par exemple au Moyen-Âge, c'est-à-dire la frappe libre, c'est-à-dire qu'on peut être capable dans certains états d'apporter à l'atelier monétaire l'orfèvrerie de belle maman, par exemple, pour la fondre en monnaie. Ça, c'est quelque chose que, quand on en a besoin, quand on a besoin de liquidité, c'est une chose que ne connaissaient pas les anciens. Il y a un privilège de frappe qui est dévolu à l'État. Et en fait, ceux qui frappent monnaie, qui prennent l'initiative de faire des contrefaçons, par exemple, on sait qu'ils étaient punis de peine de mort. On a des exemples hein, de gens qui sont exécutés, notamment des ouvriers dans des ateliers monétaires. Et donc, on frappe quand on a besoin de faire des dépenses, mais on ne prend pas en compte les besoins de ce que nous, on appelle le marché. Le besoin de liquidité du marché. Alors, en plus, il y a des résistances. Pierre-Olivier faisait allusion à Sparte. Sparte a longtemps refusé la monnaie, même si elle s'est vautrée dans leur Perse à la fin de la guerre du Péloponnèse et au début du IVe siècle. Et ensuite, et Aristote dit que les Spartiates étaient extrêmement corrompus et sensibles à l'or, mais elle a attendu très longtemps pour frapper de la monnaie et elle refusait l'usage de la monnaie qui était jugée corrupteur pour les citoyens. Il y a beaucoup d'intellectuels comme Platon et dans une moindre mesure Aristote qui ont repris cette idée. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas quelque chose qui s'est imposé d'emblée ni totalement. Et puis en plus, il n'y en avait pas assez. Alors pourquoi les États frappaient-ils monnaie ? Bon, on pense qu'il y a l'importance de la guerre, du paiement des combattants, que ce soit des citoyens soldats ou des mercenaires, bon, qui étaient très sensibles au paiement en monnaie, parce que c'était un moyen de paiement qu'ils pouvaient utiliser un peu partout, surtout quand c'était du tétradrachme athénien à l'époque classique ou à l'époque hellénistique des Alexandres ou d'autres monnaies royales. Il est possible aussi que certains États aient jugé que la fiscalité était rendue beaucoup plus facile par la diffusion de monnaie, parce que ça impliquait beaucoup moins de dépenses pour la puissance en fait, fiscale que quand il fallait récolter, par exemple, du grain, construire des greniers, ensuite vendre, etc. C'était beaucoup mieux d'obtenir des monnaies. Et puis, il y a la propagande royale et civique, même si les liens entre la souveraineté et puis la monnaie, la frappe de monnaie, sont un petit peu compliqués. Voilà. Alors, il y a aussi, pour expliquer ce succès de la monnaie dans le monde grec, il y a sans aucun doute aussi une raison, quand on réfléchit au manque de succès de l'invention monétaire en Orient jusqu'à l'époque d'Alexandre. Alexandre met la main sur les stocks de métaux précieux thésaurisés par les souverains perses, qui sont monnayés par lui et par ses successeurs au IIIe siècle. Et en revanche, on a ce succès incroyable de la monnaie dans le monde grec. Alors, comment l'expliquer ? On l'explique en général par le mode de gouvernement très différent que connaissaient les grands empires orientaux, en Égypte, dans l'Empire perse, avec toute une catégorie de scribes dans les administrations des temples, administrations royales et impériales, qui savaient, en fait, vérifier la pureté des lingots qu'on utilisait dans les échanges, qui étaient véritablement des spécialistes de cela, alors que dans les cités grecques, les magistrats qui étaient tirés au sort et qui avaient un budget à gérer, par exemple les prêtres dans les sanctuaires ou des magistrats militaires, ils avaient des dépenses à effectuer, mais ils n'étaient pas capables, véritablement, ce n'étaient pas des spécialistes des métaux précieux. Et donc à partir du moment où on leur disait, ben voilà, toutes les dépenses et les recettes, elles sont en monnaie frappée, c'est la loi de la cité qui l'impose, et le mot grec pour désigner la monnaie, c'est nomisma, c'est un dérivé de nomos qui désigne la loi. Ben, c'était facile, il n'y avait qu'à empiler les colonnes de monnaie et ensuite à effectuer les paiements. C'est-à-dire que c'est un outil pour l'échange au sein de la cité qui est extraordinairement pratique, là où finalement le gouvernement est confié à des non-spécialistes. Donc voilà pour ce succès incroyable de la monnaie dans le monde grec, même si d'autres moyens d'échange ont été utilisés, ont des systèmes de troc également, d'échange d'objets, je te donne une cargaison de vin, tu me donnes une cargaison de blé ou des armes, etc.
Et donc, pour conclure en quelque sorte et pour terminer cette présentation, puisqu'on vous a beaucoup parlé de ce matériel donc que nous utilisons nous dans notre travail d'historien, mais il faut qu'on puisse avoir ce matériel qu'il arrive à notre disposition. Et de ce point de vue-là, il faut quand même reconnaître que nous avons la chance, quand on travaille sur la monnaie, d'avoir une quantité de matériel assez considérable, puisqu'on peut déjà travailler et utiliser le matériel qui se trouve dans les différentes collections nationales, donc collections qui ont été constituées par chaque État à partir des collections royales, puis nationales dans les États qui sont devenus républicains, dans les les collections, les dons qui ont pu être faits par des particuliers. Et on a de très grosses collections, ce qu'on pourrait appeler les Big Daddies. Hein, entre nous, il y a la collection de Paris, la Bibliothèque nationale de France, qui est, pour les monnaies grecques en tout cas, l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle, en termes de volume...
Du monde,
voilà. Il y a la collection du British Museum à Londres, il y a la collection de l'American Numismatic Society à New York, du Staatliche Museum à Berlin, donc on a énormément de ressources. Et on a toutes les monnaies qui peuvent être trouvées également en fouilles légales et déclarées, et les monnaies dans des trésors, donc qui sont découvertes lors des fouilles archéologiques, et tout ce qui peut émaner de collections privées qui passe dans les catalogues de vente. Donc ça fait un matériel assez considérable, et beaucoup de choses sont encore à étudier. Beaucoup de choses sont encore à faire, et donc ce support, cette source pour l'historien, loin d'être un simple support iconographique, offre énormément de possibilités d'études pour l'Antiquité du monde grec. Bien, donc il est maintenant, je crois, l'heure de conclure cette émission et cette heure passée en votre compagnie. Donc nous espérons sincèrement que cette présentation vous aura ouvert d'autres horizons sur ce qu'est la monnaie comme source de l'historien. Et avant de vous quitter, nous tenons à remercier chaleureusement Sébastien Dubois pour toute l'aide logistique et technique qu'il nous aura apportée au cours de cette émission et qui nous aura permis les intermèdes musicaux et un enregistrement de cet échange le plus efficace possible. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.